Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque mercredi, Lélie Anvar explore les spiritualités du monde entier, leur littérature et leurs arts sacrés.
On pourrait commencer avec 3 minutes par jour. 3 minutes de méditation, 3 minutes à méditer. Et puis, petit à petit, ces minutes s'étendraient dans le temps, s'élargiraient à chaque instant, chaque heure, chaque journée, dilateraient notre vie, la rendraient plus intense, plus réelle. La vie tout entière pourrait alors devenir présence. Et bien qu'elle ne dure qu'un instant, finalement, quelle que soit sa longueur, elle deviendrait infinie, ici et maintenant. Pour parler de cette possibilité d'infini au cœur même de nos vies éphémères, nous sommes en compagnie ce soir de Christophe André. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Psychiatre spécialisé dans les troubles anxieux et dépressifs, vous avez découvert assez tôt la méditation dite de pleine conscience, que vous pratiquez personnellement, mais que vous utilisez aussi à des fins thérapeutiques, montrant par là que la méditation peut avoir des effets mesurables sur l'état général du psychisme humain et des patients en psychiatrie en particulier. Votre approche simple et claire de la méditation a valu un énorme succès à vos nombreux ouvrages sur la question et à l'émission intitulée « 3 minutes à méditer » diffusée l'été dernier sur notre antenne. Un livre éponyme est né de cette série d'émissions, coéditée par l'Iconoclaste et France Culture, une introduction simple et joyeuse à la méditation pour apprendre à respirer, se concentrer et lâcher prise, rien que cela. C'est la promesse de la quatrième de couverture, en tout cas. Est-ce que vraiment, Christophe André, 3 minutes peuvent suffire à nous apprendre le lâcher prise? Est-ce que la méditation, comme son nom semble l'indiquer en français, ne nécessite pas un laps de temps plus étendu, quelque chose qui s'étirerait en longueur? 3 minutes? N'est-ce pas un peu court tout de même pour entrer dans le processus d'une méditation?
Si, bien sûr, c'est un peu court, mais ça peut donner tout de même un avant-goût et aussi donc une promesse de ce que pourraient nous apporter des sessions plus longues.
D'ailleurs, cette introduction a duré exactement 3 minutes. Hein. Je vous le signale. oui, mais alors pourquoi vous avez voulu commencer par... comme ça, quelque chose d'aussi court, parce que d'habitude, quand on va, ne serait-ce que quand on va dans un cours de méditation, ça ne dure jamais que 3 minutes, c'est quand même un peu plus long. Donc pourquoi,
oui.
Pourquoi ce temps court? Pourquoi, est-ce que c'est les exigences de la radio qui ont fait le larron, si je puis dire?
Je ne voudrais pas me défausser sur les contraintes que m'a imposé France Culture. Non, j'étais déjà ravi de cette invitation, d'avoir des chroniques quotidiennes, parce que vous savez, il y a deux choses importantes lorsqu'on médite. Il y a bien sûr la durée, mais aussi la régularité. Mmh. Et donc le fait de disposer d'une antenne quotidienne m'a beaucoup séduit. Et finalement m'a fait avaler la pilule de la brièveté. Alors, pour justifier un petit peu ce choix des 3 minutes, d'abord il y a le fait que pour beaucoup de personnes qui n'ont jamais médité, c'est pesant l'idée de s'asseoir en silence, les yeux fermés, ça les barbe, ça les inquiète, ça leur paraît inaccessible. Et donc, moi j'ai déjà eu beaucoup de retours de lecteurs qui m'ont dit « Oh là là, oui, 3 minutes !» Du coup, je me suis dit que je pourrais essayer. Et au fond, voilà, c'est un petit hameçon lancé au fil de l'eau auquel vont mordu des poissons qui peut-être après vont se lancer et qui, pour certains, je sais, se sont lancés dans des sessions plus longues. Ensuite, il y a quand même une autre raison, j'allais dire, plus technique, plus scientifique, c'est que nous proposons à nos patients, à l'hôpital Sainte-Anne, où j'exerce depuis 2004 des sessions de méditation, donc on était parmi les premiers, en tout cas on était le premier service universitaire, et bon, parmi les premiers à proposer ça de manière codifiée à l'hôpital. Et donc nous avons des patients que nous suivons maintenant depuis 15 ans, nous observons un petit peu pour ceux qui continuent la pratique méditative, comment ils la continuent, de quelle manière ils lui ont fait une place dans leur vie. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, beaucoup de nos patients qui méditent depuis longtemps nous disent « Vous savez, il y a des moments où je n'ai pas le temps de méditer longuement, mais ce que je continue de faire tous les jours, c'est de m'accorder plusieurs fois dans la journée quelques minutes où j'arrête tout. Je me pose, je me centre et... je cherche juste à être présent, en ne faisant rien, ou présent à ce que je fais. Je suis en train de couper des légumes, je suis en train de marcher dans la rue, et simplement être là pendant quelques minutes. Et donc, quand même, c'est ce qu'on voit, c'est que la trace la plus durable, l'esprit de la pleine conscience qui reste le plus durablement et le plus quotidiennement, ce sont ces petits bouts de quelques minutes.
Depuis le début de cette émission, Christophe André, nous parlons du temps de la méditation, mais peut-être venons aux fondamentaux, à savoir tout simplement comment vous définiriez la méditation. Je vous avoue qu'on m'a plusieurs fois posé la question et j'ai souvent pas su répondre. J'ai juste dit, eh bien méditer, c'est être là.
Oui, c'est pas
que
si
dire
mal.
D'autre.
Non, c'est pas si mal. Bah déjà, on ne devrait pas poser la question comme ça parce que on ne devrait pas dire la méditation. Oui. C'est comme la nourriture. Il y a des fruits, des légumes, pour ceux qui en mangent, de la viande, du poisson, des œufs. Donc, on devrait dire les méditations, tant les familles méditatives sont variées, tant les cultures associées à la méditation sont variées. Alors, pour autant, il y a un autre problème, outre l'hétérogénéité de ce qu'on désigne par le mot méditation, c'est-à-dire entre le zen, le vipassana, les méditations tibétaines, les méditations chrétiennes, les méditations soufis, voilà, c'est un univers incroyable. Puis un autre problème, c'est qu'en Occident, et notamment en français, le mot méditation est un faux ami. Vous savez, il y a des faux amis lorsqu'on traduit comme ça des mots, des termes, des concepts. Et pour beaucoup d'Occidentaux, beaucoup de Français, méditer, c'est réfléchir. Mmh. C'est réfléchir de manière approfondie. Et il y a toute cette tradition des méditations philosophiques, des méditations romantiques, qui ne sont autres que des réflexions très pleines, très profondes.
Très mentales, au fond.
Voilà, c'est mentalisé. Et en fait, lorsqu'on parle aujourd'hui de méditation, ce n'est pas ce courant, à cette description de la méditation, à cette définition de la méditation qu'on s'adresse, mais à une forme de méditation très spécifique. Vous savez, aujourd'hui, en 2017, lorsqu'on parle, ou que ce soit dans le monde, de méditation, en général, on fait référence à la méditation de pleine conscience, qui est une forme de méditation très spécifique, qui consiste, comme vous le disiez, à se rendre présent régulièrement, recentrer un petit peu son esprit sur l'instant présent. Que suis-je en train de ressentir? Que suis-je en train de vivre? Que suis-je en train de faire? Dans quel état d'esprit? Dans quel état d'âme? Et au fond, ça pourrait être une définition de la méditation. C'est un acte de présence à soi et au monde.
Alors justement, cette méditation en pleine conscience, elle a une histoire que vous pourrez peut-être nous raconter en quelques mots. Qu'on appelle justement maintenant, c'est vrai quand on dit méditation on pense à ça, mais qu'est-ce que c'est qu'exactement cette méditation de pleine conscience? Qui l'a créée? Et puis après on parlera de ses origines qui sont quand même extrêmement anciennes et en particulier indiennes.
Oui, oui, oui. Alors telle que nous la pratiquons, cette méditation de pleine conscience, c'est une méditation qui est laïque, donc qui a écarté toute forme de référence à la spiritualité ou à la religion. Non pas que ça soit mal, la spiritualité ou la religion, mais l'arrière-pensée, c'était de s'en servir dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation. Donc évidemment, il fallait faire ce travail de laïcisation, en quelque sorte. Deuxièmement, c'est une technique qui est très simplifiée et très codifiée. Alors, simplifiée, c'est important parce qu'autrefois, lorsque les gens voulaient méditer, ils devaient s'engager dans des cursus, si j'ose dire, ou dans des démarches, des parcours très longs, des initiations, que ce soit aux ou à d'autres approches, ça prenait des années et des années. Là, ce qui est proposé par la pleine conscience, c'est quelque chose de court. Alors, bon, les puristes disent que c'est un peu galvaudé, un peu simplifié. Moi, je ne crois pas. Je pense que ce que nous faisons avec nos patients, par exemple, qui durent à peu près 3 mois, est quelque chose qui leur donne authentiquement le goût de la méditation, qui leur donne authentiquement les rudiments qui ensuite vont leur permettre de naviguer dans cet univers. Donc, c'est une méditation très spécifique qui a été conceptualisée par un Américain qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, avec qui je me suis formé, qui est un professeur encore très actif. Il doit avoir 75 ans aujourd'hui, John, mais il est toujours très, très impliqué dans la diffusion de cette technique.
Et qui vit aux États-Unis.
Il vit aux États-Unis, mais il court le monde pour rencontrer ses élèves. Au départ, c'est même pas un médecin, un psy, c'est quelqu'un qui fait de la biologie moléculaire, qui est un scientifique, passionné de yoga, passionné de zen, passionné de méditation, et qui, dans les années 70, se dit, mais c'est trop bête, c'est tout ce que je fais, quoi. C'est tellement merveilleux, ça me fait tellement de bien, j'ai l'impression que ça fait tellement de bien à tout le monde. il faudrait qu'on puisse le proposer dans le monde de la santé. Mais tel quel, on ne peut pas. Trop compliqué, trop religieux, trop... Voilà. Et donc, il a eu cette idée de génie de faire ce protocole de pleine conscience laïque avec séance 1, on apprend aux gens à prendre conscience de l'instant. Séance 2, on leur apprend à travailler leur souffle. Séance 3, le corps. Séance 4, les pensées. Et bon, bref. Et il a commencé à le tester avec des protocoles scientifiquement validés, avec des groupes témoins, les gens qui méditaient, ceux qui ne méditaient pas, qu'est-ce que ça changeait. Et peu à peu, ça s'est diffusé. C'est étonnant d'ailleurs la vitesse à laquelle ces idées nouvelles se sont diffusées. Et en une vingtaine d'années, au fond, toute la communauté scientifique qui s'intéressait au fonctionnement de l'esprit était au courant que ce truc existait, que ça donnait des résultats intéressants, non seulement sur l'état émotionnel des personnes qui méditaient, mais aussi sur leur corps, sur l'état de santé, et que ça modifiait leur cerveau. C'était l'époque où on commençait à avoir de la neuroimagerie, vous savez, ces techniques qui permettent de voir quelle zone du cerveau fonctionne quand on fait ceci ou cela. Et donc, il y a eu un décollage incroyable des publications scientifiques sur la méditation qui a attiré tout un tas de gens comme moi. À la fin des années 90, on commençait à voir passer ces articles. On se disait, waouh, il y a un truc bien là qui se passe dans notre discipline, il faut aller voir. Et donc, ça a démarré un petit peu comme ça, alors que, comme vous le disiez, c'est une très vieille histoire, la méditation, c'est 2500 ans au moins.
Ah oui, au moins, c'est peut-être, si ce n'est plus, puisque finalement, est-ce que c'est pas concomitant à l'avènement de l'humain dans l'humanité, puisqu'il y a de l'art dès le début, il y a probablement de la méditation dès le début. Vous seriez d'accord avec le fait de faire ce parallèle, c'est-à-dire de dire qu'il y a quelque chose de profondément humanisant dans cela, et que donc, quand il y a de l'humain, il y a nécessairement une forme ou une autre de méditation et d'art.
Très probablement. C'est-à-dire, après, nous, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est de comprendre la différence entre les états méditatifs spontanés et puis les états méditatifs travaillés, provoqués, suscités par nous-mêmes. Et effectivement, tout être humain a connu des états méditatifs spontanés. C'est l'exemple de ce qui se passe chez chacun de nous face à un feu de bois, face à un coucher de soleil, face aux vagues de l'océan. Et moi, je pense effectivement que depuis que l'humain est humain, eh bien, il a dû s'arrêter, regarder le soleil se coucher, s'arrêter, suspendre ses gestes, juste être là, respirer, puis commencer à se dire... à être dans la contemplation. La contemplation, c'est finalement l'ancêtre, sans doute, de la méditation. C'est ces moments où nous sommes dans la présence sans attente. On ne cherche pas à trouver des objectifs, à poursuivre des objectifs particuliers, à trouver des réponses. On est juste dans une présence au monde, à nous-mêmes, à l'interaction entre le monde et nous-mêmes. Et là, très probablement, oui, c'est aussi vieux que l'humanité. Ce qui est peut-être plus récent, c'est le moment où certains humains décident de codifier ça, de le susciter par eux-mêmes, sans avoir besoin d'être devant le feu, le coucher de soleil ou l'océan, de le transmettre à d'autres. Ça, c'est sans doute plus récent. Voilà, là, c'est 2-3 millénaires, mais... Vous avez raison, cette présence des capacités contemplatives et méditatives au cœur des humains, c'est immémorial.
Oui, et en vous écoutant, je me dis, mais peut-être d'ailleurs, parce que vous disiez justement, sans avoir de visée particulière, on regarde juste, on contemple, on se laisse finalement prendre par l'objet de cette contemplation. Et en vous écoutant, je me disais, tiens, c'est peut-être comme ça que les hommes ont découvert... les propriétés, par exemple, du feu ou des choses, etc. Je ne pense pas du tout que ça se soit fait par hasard, comme on a tendance à nous le faire croire. Un jour, tout à fait par hasard, il y a un morceau de viande qui est tombé sur du feu et on s'est dit, tiens, pourquoi pas cuire ? Je n'y crois pas. Et en vous écoutant, je me dis, tiens, c'est peut-être ça. C'est-à-dire qu'il y a dans le travail, alors contemplatif, avant même d'arriver à la méditation, quelque chose de très profondément créatif, puisque les propriétés de ce qu'on contemple peuvent soudain... entrer en connexion avec notre compréhension. Je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est vraiment... pas préparé comme question.
Non, mais c'est une hypothèse en tout cas très plausible, très recevable, pour plusieurs raisons. D'abord parce que lorsqu'on interroge un certain nombre de... Alors je connais moins les artistes, mais je m'intéresse à la façon dont le cerveau des scientifiques fonctionne, et il est fréquent qu'ils disent, voilà, il y a plusieurs phases dans l'avancée de mes recherches. Il y a les phases où je cogite, où je réfléchis, où je fais tourner tous les rouages de mon cerveau, de mon intelligence, de ma mémoire, de ma concentration, volontairement. Et puis, les phases où je laisse tomber ce truc, je vais marcher, je dors, je fais autre chose, et où je vois bien que mon cerveau continue de fonctionner tout seul, parce qu'à certains moments, je me dis, ouais, ça y est, j'ai trouvé, j'ai une petite étincelle. Alors, il ne faut pas trop caricaturer ni idéaliser, mais il est très fréquent que ces deux types de fonctionnements cérébraux, l'un beaucoup plus décisionnel, actif, l'autre plus en roue libre, contemplatif, se complètent pour déboucher sur voilà, l'aboutissement de certaines intuitions. Ça, c'est le premier point. On a aussi d'autres données qui pourraient aller dans le sens de votre hypothèse, qui sont les données du fonctionnement des grands méditants. Là, ce sont des gens très expérimentés. Et lorsqu'on regarde comment ça se passe dans leur cerveau, alors non plus au niveau de l'imagerie, mais au niveau de l'activité électrique du cerveau. Vous savez, ce sont des sortes d'électroencéphalogrammes. On met plein de capteurs, mais là, on en met pratiquement 250, hein, c'est énorme, sur toute la surface du crâne pour mesurer la moindre modification d'activité électrique. Mmh. Et donc, on a des rythmes comme ça, alpha, bêta, delta, gamma et tout ça. Et ce qu'on voit, c'est que dans le cerveau des méditants très expérimentés, lorsqu'ils sont à plein régime, j'allais dire, de leur activité méditative, notamment certains types de méditation sur la compassion, etc., eh bien, on a une hyperactivité de certains rythmes cérébraux, des rythmes gamma qui signent ce qu'on pourrait désigner par des activités de synthèse cérébrale, au fond des moments où l'ensemble de leurs aires cérébrales sont en dialogue, sont en échange, donc très probablement des instants de potentielle grande créativité. Donc c'est très possible effectivement que les choses aient pu se passer, comme vous le dites, indémontrable, mais c'est plausible.
Oui, en tout cas, à notre niveau, plus terre-à-terre, je dirais, en vous lisant, j'ai quand même souvent eu cette impression que, en vous lisant et en essayant de faire ce que vous dites qu'il faut faire, quand même, qu'il faut faire de pratiquer, parce que ça suffit pas de lire. Mais voilà, quand on a un livre qui propose des exercices, j'essaye autant que faire se peut de suivre ces exercices pour en voir l'efficacité. Et c'est vrai que j'ai remarqué que, en particulier le travail du souffle, qui est évidemment un travail que l'on fait dans beaucoup de disciplines, est un travail qui permet justement à l'esprit de... Alors, une sorte d'expansion de l'esprit, une sorte de... comme si, justement, après on en revient plus créatif. C'est ça qui est très étrange. Est-ce que c'est juste parce qu'on oxygène le cerveau? Est-ce que le fait de juste marcher dans la forêt et respirer aurait le même effet que de faire ce travail de méditation que vous proposez? Ou est-ce que c'est vraiment parce que c'est cet exercice-là, dans le cadre d'un travail ou d'une pratique méditative, que ça fait cette ouverture-là? On a vraiment l'impression que ça ouvre des canaux.
Oui, je crois que c'est plus qu'une impression. Là encore, on a quelques indices en neuroimagerie, mais si on en reste juste à l'aspect phénoménologique, le ressenti subjectif, l'analyse de ce qui se passe, le souffle, c'est quand même un outil merveilleux. C'est-à-dire, ça n'est pas étonnant, comme vous le disiez, qu'il soit vraiment une sorte de couteau suisse de toutes les pratiques spirituelles, finalement, parce que d'abord, se centrer sur son souffle, c'est-à-dire ne pas réfléchir, mais ressentir simplement la présence du souffle en nous, son passage dans notre corps, les manifestations de la respiration sur l'ensemble de notre corps, a une vertu première qui est de stabiliser notre attention. C'est-à-dire, ça fait que notre attention, au lieu de partir un petit peu dans tous les sens, de suivre n'importe quelle idée, n'importe quel bruit, n'importe quel mouvement autour de nous, commence à s'approfondir, à se centrer, à se poser sur quelque chose de concret, de présent, d'actuel. Voilà. Donc, dans un premier temps, on utilise beaucoup le souffle pour se recentrer, se poser notre attention. Et puis, dans un deuxième temps, à partir de cet enracinement dans l'instant présent, vous savez, notre esprit, il voyage parfois dans le futur ou dans le passé ou dans l'ailleurs, mais notre corps, il est toujours là. Hein, il ne sait rien faire d'autre qu'être là, seconde après seconde. À partir donc de cet enracinement, effectivement, on voit que on peut avoir une ouverture de notre champ attentionnel tranquille et d'une qualité différente. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le fonctionnement de l'attention, c'est un drôle de truc, et que ce qu'on cherche dans la pleine conscience, c'est une attention de bonne qualité, c'est être vraiment attentif à ce qui se passe, à ce que nous vivons, mais aussi d'une certaine qualité. C'est une attention qui ne se laisse pas capturer par des pensées préoccupantes ou qui ne se laisse pas capturer par des sensations physiques douloureuses. Si quand je médite à un moment où j'ai des soucis ou à un moment où j'ai mal aux dents, eh bien, le risque, c'est que mon attention soit attiré par mes soucis et qu'il n'y ait plus que mes soucis et tout le reste échappe à mon regard psychologique, mental, ou que mon attention soit capturée par mon mal de dents. Évidemment, quand j'ai mal aux dents, ben plus rien n'existe.
Surtout mal aux dents.
Ouais, c'est terrible, hein, le mal de dents. Et donc, ce qu'on apprend dans la pleine conscience, c'est effectivement à cultiver une qualité d'attention qui ne soit pas capturable, qui soit fluide, qui note tel ou tel phénomène, mais qui reste en contact avec tout le reste. Et chaque fois qu'on est perdu, chaque fois qu'on voit qu'on est parti dans ses pensées, dans une sensation corporelle ou dans une rêverie, on revient au souffle, on se dit « reviens au présent, ressens à nouveau ton souffle et rouvre doucement à ton corps, au son, regarde passer les pensées, mais traite tout à égalité, que ça soit la conscience de ton souffle, la conscience de ton corps, la conscience de tes pensées. » Et ça, c'est une qualité d'attention très particulière et très inhabituelle. En général, on saute d'un objet de préoccupation à un objet de distraction, puis à une action, et on est dans des modes attentionnels focalisés, un peu figés, capturés. Mais pour revenir à votre question, c'est vrai que le travail sur le souffle, comme sorte de gouvernail, de point de repère pour modifier peu à peu la qualité de son attention, est un truc absolument central. Et alors le souffle, les exercices sur le souffle, caractérisent les méditations du débutant comme les méditations des grands maîtres. Vraiment, on démarre en général par ça.
Et d'ailleurs, ça caractérise d'ailleurs toutes les, entre guillemets, techniques, j'aime pas ce mot, mais en tout cas toutes les pratiques aussi de prière, finalement, dans le monde entier. Quand il s'agit de faire en particulier des prières collectives, mais pas seulement, que ce soit dans les cercles soufis ou dans les monastères ou même les Indiens d'Amérique, et ils ont ce point commun, c'est que le rite est toujours associé à une rythmique du souffle. C'est-à-dire comme s'il y avait quand même une puissance dans le souffle qui relie aussi à l'autre dimension dont ne veut pas parler la méditation pleine conscience. Mais enfin, parlons-en quand même un peu, Christophe André, si vous le voulez bien, puisque nous ne sommes pas ici ni à l'hôpital ni à l'école. Bien sûr, nous sommes sur une chaîne publique, mais enfin, nous pouvons quand même un peu parler de cette dimension autre à laquelle invite le travail sur le souffle dans, on peut dire, quasiment toutes les traditions, je vous dis, africaines, sud-américaines, oui. ou plus proches de nous. Enfin, vraiment, il n'y a pas une tradition religieuse ou rituelle qui ne fasse pas un travail sur le souffle.
Bien sûr. Oui. Mais ce qui est étonnant, d'ailleurs, c'est que devant le succès de la méditation de pleine conscience, qui est un succès planétaire, hein, ça n'est pas qu'en France ou qu'en Occident, vraiment, c'est vraiment quelque chose qui touche le monde entier actuellement. On voit les traditions religieuses se réveiller. Mmh. Par exemple, en France, j'ai de plus en plus de contacts avec des prêtres catholiques qui me disent « Oh là là, mais finalement, au début, ça nous agaçait quand même, ces histoires de méditation. On se demandait si c'était pas des trucs de secte, New Age, etc. Puis on a vu que non. Et puis après, ça nous agaçait toujours parce qu'on se disait « Mais finalement, nous aussi, on a une tradition méditative dans l'Église catholique. On avait les pères du désert au 3e, 4e siècle après Jésus-Christ. Quand on regarde leurs écrits, c'était très, très proche de la pleine conscience. » Et ce à quoi je leur réponds, ben ouais, mais l'Église catholique n'a jamais fait fructifier cet héritage fabuleux. Au contraire, elle l'a un peu marginalisé, comme elle l'a fait avec l'héritage mystique, parce que c'était une sorte d'accès direct à Dieu, de dialogue singulier avec Dieu, et que l'Église a toujours préféré que ça se passe à la messe, au travers du groupe.
Par une médiation, en fait.
Ouais, avec une médiation, une conduite par les prêtres, l'Église, etc. Donc, et c'est eux qui ont laissé tomber en déshérence leur tradition méditative, là où le bouddhisme la gardait vivante, et là où d'autres traditions je ne connais pas bien la tradition soufie, que vous connaissez très bien, mais j'ai l'impression que chez les soufis, c'est un truc central aussi, hein, ces pratiques. Voilà. Donc ça, c'est intéressant de voir comment toutes les grandes religions, au fond, un peu stimulées, aiguillonnées par la vogue de la pleine conscience, réexplorent leur propre tradition méditative. Et comme vous le disiez, ça n'a rien d'un hasard. Je pense que pour bien prier, il faut être présent.
Les discussions du soir. Les discussions du soir, Lily Anvar.
Je ne vous cache pas que parfois ça m'agace de voir qu'on parle de la méditation en la coupant vraiment complètement de ses origines spirituelles et religieuses. Mais je sais pourquoi vous le faites, je suis bien consciente de la nécessité de le faire pour justement ne pas s'enfermer au fond dans une tradition oui. purement religieuse. Et c'est ce que je vous disais, en vous lisant, je pensais à ça en me disant, mais en fait ça c'est une base. Pour celui qui voudrait avoir une pratique de la prière, c'est très utile comme propédeutique d'une certaine façon. Alors absolument. Il y a celui qui pourrait juste l'utiliser pour son bien-être personnel, parce que finalement on peut faire de la méditation juste pour son bien-être personnel. Mais il ne faut pas être agacé par ça, puisque finalement, celui qui a une recherche spirituelle, il peut en faire une propédeutique.
Ah oui, ça me frappe énormément. Mais effectivement, on n'avait pas le choix. Il fallait qu'on puisse avoir des outils laïcs. Et déjà, rien qu'avec ces outils, quand on a démarré, hein, une fois de plus, en 2004, c'était limite. Hein. Pas mal de nos confrères et certains patients pensaient que nous introduisions des outils sectaires, etc. Donc il a vraiment fallu les convaincre, les rassurer. Ok, bon, maintenant c'est à peu près... Le débat est à peu près clos. Il est clair que c'est un outil absolument laïque. Pour autant, ça n'est qu'une porte d'entrée. Nous, ce qu'on voit très bien, c'est qu'une fois qu'on a formé nos patients, par exemple, à ces approches, ça leur fait vraiment du bien, ça les aide à moins ruminer, à affronter différemment ce qui les fait souffrir, à affronter différemment l'adversité, à savourer davantage leur présent, leur quotidien, à être finalement à mieux savourer les petits instants de bonheur. Mais très rapidement, quand vous méditez régulièrement, vous allez commencer à percevoir des moments qui sont des moments de spiritualité, des moments où finalement, moi ça m'avait fait ça, j'avais été frappé par certaines sessions de méditation les premières fois qu'on conduisait, quand on faisait des groupes de méditation au printemps, souvent on sortait de la salle d'hôpital, qui n'était pas très sexy effectivement, et on allait méditer dans le parc Montsouris, qui est un parc parisien proche de l'hôpital Sainte-Anne où j'exerce. Et là, on se pose avec nos patients, puis on médite un quart d'heure, une demi-heure en silence, avec le petit vent, la petite brise tiède qui caresse notre peau, la rumeur de la ville autour de nous, puis nous on est là sur notre souffle à regarder passer nos pensées. Et là, très fréquemment, enfin ça me concernait, mais j'ai aussi des patients qui m'ont raconté l'équivalent de ce que Freud, de ce que Romain Rolland racontait à Freud dans leur correspondance, l'équivalent de ce sentiment océanique, tout à coup une espèce de sentiment d'appartenance à l'univers, d'appartenance au monde qui nous entoure, un petit brouillage des limites entre soi et non-soi, une sorte de message comme ça spirituel, se dire mais finalement, cette petite entité, ton ego, ta personne, tes certitudes, elles s'inscrivent très clairement dans un truc plus vaste. Et alors, avec ce qui caractérise la pleine conscience, c'est que c'est de l'expérientiel. Conceptuellement, nous savons tous que nous ne sommes qu'un petit bout d'univers, que nos atomes sont des atomes qui sont communs dans tout l'univers. Enfin, bref, on est une petite poussière d'étoiles. On le sait intellectuellement. Mais lorsque vous méditez, vous dépassez très clairement les frontières du savoir intellectuel, et vous rentrez dans quelque chose qui est de l'ordre de l'expérientiel. Tout à coup, vous faites une espèce d'expérience, alors assez compliquée à traduire en mots, évidemment, comme toutes les expériences spirituelles, un petit peu indicibles, mais de cette appartenance à l'univers, et d'une sorte de sentiment de paix et de sécurité qui va largement au-delà de votre condition matérielle actuelle. Vous faites l'expérience d'une paix, d'une sérénité profonde, même si vous avez mal aux dents, des soucis, etc. Donc là, il se passe des trucs. Alors, quand les patients nous en parlent, Ben on leur dit oui, effectivement, au bout d'un moment, c'est des choses qui se passent. Nous, c'est pas notre boulot. Nous, on est des médecins et donc on note que ces trucs-là existent. Allez-y si ça vous intéresse, explorez-le avec votre tradition spirituelle ou religieuse. Mais voilà, nous, on peut pas vous pousser à travailler ça ici et maintenant.
Alors, ce que vous dites, Christophe André, fait une magnifique transition pour le texte que je vous ai apporté, qui est donc un texte, un extrait de Siddhartha, de Hermann Hesse, qui se situe à un moment du roman, enfin de ce roman initiatique, où Siddhartha a déjà tout exploré du savoir mental, bien sûr, de cette recherche mentale qu'il a de comprendre le monde. Il a tout exploré des plaisirs sensuels de la vie. Et enfin, il comprend que il doit s'asseoir au bord du fleuve et voilà, tout abandonner, dans le sens abandonner tout ce volontarisme qui a été le sien pour se laisser finalement traverser par ce qu'il voit et par ce qui advient. À chaque pas qu'il faisait sur la route, Siddhartha apprenait quelque chose de nouveau, car le monde pour lui était transformé et son cœur transporté d'enchantement. Il vit le soleil se lever au-dessus des montagnes boisées et se coucher derrière les lointains palmiers de la rive. Il vit la nuit, les étoiles, leur belle ordonnance dans le ciel et le croissant de la lune, tel un bateau flottant dans l'azur. Il vit des arbres, des astres, des animaux, des nuages, des arcs-en-ciel, des rochers, des plantes, des fleurs, des ruisseaux et des rivières, les scintillements de la rosée le matin sur les buissons, de hautes montagnes d'un bleu pâle au fond de l'horizon, des oiseaux qui chantaient, des abeilles, des rizières argentées qui ondulaient sous le souffle du vent. Toutes ces choses, et mille autres encore, aux couleurs les plus diverses, elles avaient toujours existé. Le soleil et la lune avaient toujours brillé. Les rivières avaient toujours fait entendre leur bruissement et les abeilles leur bourdonnement. Mais tout cela, Siddhartha ne l'avait vu autrefois qu'à travers un voile menteur et éphémère, qu'il considérait avec défiance et que sa raison devait écarter et détruire, puisque la réalité n'était point là, mais au-delà des choses visibles. Maintenant, ses yeux désabusés s'arrêtaient en deçà de ces choses. Il les voyait telles qu'elles étaient, se familiarisait avec elles, sans s'inquiéter de leur essence et de ce qu'elles cachaient. Il tâchait de découvrir le petit point de ce monde où il arrêterait ses pas. Qu'il était beau le monde pour qui le contemplait ainsi, naïvement, simplement, sans autre pensée que d'en jouir. Christophe André, un mot peut-être sur mots que Hermann Hesse
C'est splendide, oui. Bien sûr, oui, c'est splendide. Et effectivement, je pense qu'Hermann Hesse a dû vivre lui-même de telles expériences. Je ne connais pas bien sa biographie, mais il est évident que là, ce qu'il décrit, c'est une retranscription de moments qu'il a dû vivre, traverser. On trouve des très beaux passages comme ça chez Hoffmannsthal également, sur l'instant de... Je ne sais pas si on peut dire de ravissement, mais de plénitude, face au réel, tout simplement, face à l'instant. Et alors ça, effectivement, ce sont des moments... que l'on éprouve fréquemment, qui parfois ne dure que quelques minutes.
On m'a
taquiné au début sur les
3 minutes, c'est déjà pas
voilà,
mal.
Voilà. Des sortes de petits flashs, de petits instants d'absolu comme ça. Et ce qu'il faut bien comprendre, alors pour les personnes qui nous écoutent, qui ne méditent pas, c'est que on n'est pas dans le conceptuel. Là, évidemment, S utilise des mots pour nous raconter ça, mais vraiment, quand on est là-dedans, c'est d'abord, on ne cherche pas à mettre des mots, on cherche juste à ressentir, à éprouver. On a l'impression qu'il se passe un truc dans chacune de nos cellules, jusqu'au fin fond de notre corps. Et ben, on ressort en se disant « Waouh, il s'est quand même passé des choses quoi, qui ne sont pas forcément du domaine de l'illusion, de l'autosuggestion. Moi, je ne cherchais rien, je cherchais juste à suivre mon souffle, à poser mon esprit dans le présent. Et tout à coup, là, hop, une espèce de lévitation psychologique, quelques instants. Et puis, le réel m'a reposé là et je suis un peu shooté.
Ben, alors, l'objection qu'on pourrait faire, Christophe André, à cela, c'est que, bien sûr, ça c'est très beau, quasiment tous les invités de cette émission depuis le début de l'année, à un moment ou à un autre, nous parlent de cette possibilité finalement de communion avec la nature, ou de la nécessité d'ailleurs de communion avec la nature, chez les enfants, dans l'éducation, ou dans tout travail pédagogique, que ce soit pour les autres ou pour soi-même. Donc, tout le monde parle de cela. Regardez, ça paraît mièvre peut-être, regardez le soleil se lever ou le soleil se coucher, ou regardez un arbre, etc. L'objection que l'on pourrait faire, c'est que, évidemment, la vie moderne, ce n'est pas cela. C'est vrai que vous avez la chance d'avoir le parc Montsouris à côté de votre lieu de travail, mais il y a beaucoup de lieux de travail et de vie qui sont vraiment désespérément dénués du spectacle de la beauté, qu'elle soit naturelle ou pas naturelle. Est-ce que vous ne pensez pas, parce que souvent vous parlez du fait de regarder l'eau, de regarder quelque chose de beau et qui soit un élément naturel, est-ce que vous ne pensez pas que peut-être la méditation pourrait aller encore plus loin, c'est-à-dire devenir un plus loin possible, intérieur qui fasse advenir ces beautés, y compris dans un paysage de béton où on n'a pas accès à cela. Est-ce que la méditation peut aussi nous faire traverser la difficulté du postmodernisme, qui est que nous ne sommes plus en connexion avec la nature pour beaucoup d'entre nous, malheureusement.
Oui, elle le peut. Alors, ce qu'il faut comprendre, moi, si vous voulez, je suis un pédagogue, je travaille comme médecin et j'apprends à mes patients ces approches méditatives pour leur santé. Donc, comme tous les pédagogues, je suis d'abord attaché à ce que les patients ou les personnes à qui j'enseigne fassent ces expériences d'abord dans des environnements facilitants. Donc c'est vrai que c'est plus facile de méditer quand on est au calme, tranquille, un peu à l'écart, que sur un quai de métro. Je pense que ces environnements facilitants, favorisants, ou méditer pieds nus dans l'herbe un jour de printemps au parc Montsouris, c'est quand même pas mal parce que ça nous facilite un peu les choses. Maintenant, je pense exactement comme vous, je crois que ce qui est magique dans la pratique régulière de la méditation, c'est que nous pouvons autoproduire ce type d'état d'âme, de ressenti, sans aucune dépendance au monde extérieur. Et nous encourageons nos patients à le faire, à leur dire, on peut, bien sûr, c'est plus cool de méditer face à un feu de bois, dans la nature, tranquille, dans un temple. Bon. Mais peu à peu, ça va être important aussi que vous puissiez le faire au cœur même de vos vies, là où se déroule votre quotidien, et donc sur le banc du métro, lorsque vous attendez votre rame, etc. Pour autant, je crois quand même que si on n'a pas des contacts réguliers avec la nature, on meurt physiquement et moralement. Et donc, je ne voudrais pas non plus que la méditation soit présentée comme une sorte d'alternative, en disant, méditer, ça remplacera une balade dans les bois. Je ne crois pas. Je crois que si on n'a pas de contact très régulier avec la nature, et là encore, vous savez, on a beaucoup d'études actuellement qui montrent que se balader une fois par semaine, environ 2 heures en forêt, est quelque chose qui augmente considérablement, par exemple, nos défenses immunitaires. Qui régularise.
Ça, on peut le constater soi-même, bien sûr.
Ouais. Et donc, ce que vous disiez sur le fait que l'environnement d'un plus en plus grand nombre d'humains est aujourd'hui un environnement de béton, de pollution, qui n'offre une nature un petit peu anémie, quand elle l'offre, c'est un vrai problème à la fois de santé publique, à la fois la santé du corps, mais aussi la santé de l'esprit. Je pense que l'urbanisation galopante de 90% de la population pose d'énormes problèmes de santé mentale. Et que donc, il ne faut pas que la méditation soit perçue comme une sorte de substitut à ça, mais
elle
peut nous aider à mieux supporter ces carences, bien sûr, ces carences. Pour chaque humain, évidemment, ça serait bien de pouvoir se réveiller tous les matins dans un jardin, regarder le soleil se lever tranquillement, écouter les oiseaux chanter, s'endormir le soir dans le même environnement. Ça serait l'idéal. Bon. Si on le fait une fois par semaine, déjà, c'est pas si mal, et que les autres jours on médite, ça peut être un compromis acceptable.
Oui, et puis plus que ça, parce qu'il y a des chapitres, on peut penser que la méditation est quelque chose de purement intérieur, personnel, que l'on fait dans son coin, sans connexion avec les autres et le monde, ce qui n'est pas du tout le cas. Il y a des chapitres très intéressants sur la méditation compassionnelle, justement, le fait que c'est une préparation aussi à l'amour d'autrui, et à l'amour de la nature, et peut-être que On pourrait imaginer que justement une généralisation de la méditation nous permettrait de mieux penser notre rapport et de donc créer peut-être plus de jardins. Donc il y a quelque chose de presque militant dans votre approche de la méditation qui n'est pas du tout déconnecté de l'action. Et je tiens à le dire parce que souvent, ça peut avoir l'air d'être déconnecté. Et pour vous, c'est très très important de faire de la méditation un socle pour l'action, et pourquoi pas pour l'action écologique, en l'occurrence, pour le sujet qui nous intéresse.
Absolument. Oui, oui, absolument. C'est une précision qui doit être rajoutée à chaque fois au discours sur la méditation. La méditation n'a pas pour but de nous couper du monde, même si ça y ressemble un petit peu. On a l'impression, on se met à l'écart, on se pose, on ferme les yeux, donc on crée une sorte de bulle dans laquelle on s'apaise, on se fait du bien, on a plus de clairvoyance, plus de discernement. Pourquoi pas ? Ça existe, mais la finalité, en réalité, de la méditation, c'est de nous aider à développer un rapport au monde différent. C'est de revenir vers le monde, ou d'être présent au monde différemment, avec plus de paix, plus de lucidité, plus de justesse dans la manière dont nous le voyons et dont nous intervenons sur lui. Et c'est pour ça qu'à mon avis, effectivement, une personne qui médite régulièrement va avoir, c'est ce qu'on trouve un peu dans les études sur les soignants, on montre que les soignants qui méditent ont quand même une meilleure qualité d'écoute, ont quand même une meilleure tolérance au stress que leur inflige leur patient. Un patient qui vient vous voir, qui vous dit « Oh là là, depuis que vous avez marqué ce médicament, je vais de plus en plus mal », il faut que dans le cerveau du médecin ou du soignant, il y a beaucoup de compassion, qui ne se sentent pas offensés ou contrariés par le truc, mais qui se disent « Pauvre patient, je croyais l'aider, je l'ai aggravé, qu'est-ce qui se passe ? Tournons-nous vers lui avec amour, avec patience. » Il y a des jours, on a du mal à faire ça, mais clairement, la méditation nous y aide. Et donc, je crois que ce travail de compréhension de soi, de pacification, d'attention prêtée au monde et aux autres, fait de nous de meilleurs humains, de meilleurs citoyens, des personnes plus présentes à autrui, plus présentes à la nature, plus concernées par la marche du monde, et que c'est un acte d'intériorité citoyenne, là où effectivement les personnes très impulsives, qui ne sont jamais attentives à leurs états d'âme, à leur intériorité, à leur équilibre intérieur, ça peut avoir des vertus aussi, la colère, l'impulsivité, les coups de gueule, mais sur la durée, risque de faire autant de mal qu'elles peuvent faire de bien. Là où des personnes un peu plus dans le discernement...
Plus sereines.
Ouais, plus sereines. C'est mon avis. Après, la réalité, c'est qu'il faut probablement les deux. Il faut des énervés qui ne méditent jamais parce que ça les énerve, ça les gonfle, même la méditation. Et puis des gens plus posés que... Pour que le monde change, il faut parfois que les énervés poussent des coups de gueule, mais on ne peut pas leur laisser les clés de la voiture ou la barre, le gouvernail. Il faut qu'après, les apaiser, les gens qui sont plus sereins intérieurement, prennent la suite pour la reconstruction. Donc vous voyez, je crois qu'il y a une vision comme ça de psychodiversité que j'ai du genre humain dans sa capacité à changer le monde, qui fait tout de même que tout au fond de moi, je pense que si la majorité d'entre nous méditait davantage, ce monde serait quand même meilleur.
Eh bien, merci beaucoup, Christophe André, d'être venu nous partager avec nous cette passion, finalement, sereine, qui est la vôtre pour la méditation. Je voudrais signaler que notre partenaire Psychologie Magazine sort ce mois-ci un hors-série consacré à la méditation, hors-série qui a été coordonné par vous, Christophe André. Peut-être juste un mot sur ce hors-série qui contient, je crois, différents aspects de la méditation, à la fois ses aspects historiques et actuels.
Oui, c'est un hors-série donc qui est destiné à montrer tous les aspects de la méditation. On a la description de ce qui se passe quand quelqu'un fait une retraite d'une semaine entière de méditation, la manière de méditer à différents moments de sa journée, des entretiens avec des méditants très expérimentés ou des gens qui viennent de découvrir. Donc c'est une sorte de tour d'horizon de ce que peut donner la méditation au quotidien dans notre vie de citadin du 21e siècle.
Avec toutes sortes de contributeurs, donc. On trouvera tous les détails, bien sûr, sur le site de notre émission et aussi sur le site de Psychologie Magazine. Je rappelle aussi le titre de votre dernier ouvrage, 3 minutes à méditer, publié par l'Iconoclaste et France Culture. C'était les discussions du soir par Leïli Anvar, attachée de production Thierry Beauchamp, réalisation Clotilde Pivin, avec à la prise de son Benjamin Vignal. Très belle fin de soirée à tous en méditation.